Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 75e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Yann-Cédric Mingui, Serial Entrepreneur, Head of eSport de Gamers Origin aka Géo, un des plus grands clubs d'eSport professionnels français, et il est également le cofondateur du Meltdown, le premier réseau de bar eSport au monde. Vous allez l'écouter pendant plus d'une heure, Yann-Cédric a un parcours impressionnant où ses aventures entrepreneuriales et sa passion pour les jeux vidéo sont toujours reliées. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de Yann-Cédric, le début de son histoire d'amour pour les jeux vidéo et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat. Comment a-t-il eu l'idée de créer le premier réseau de bar e-sport au monde? Toute l'aventure incroyable du Meltdown et ses grandes étapes, son poste de Head of eSport chez Géo, l'une des plus grandes teams e-sport professionnelles françaises, ou encore sa vision de l'entrepreneuriat et le parallèle qu'il en fait avec le e-sport. Cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube, notamment si vous voulez voir les backstage de l'échange. Un grand merci à Cool & Workers, un espace de coworking très cool sur Paris, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour cet échange. Et c'est la troisième fois qu'ils nous accueillent pour un podcast, donc merci à eux. Merci également à Galadno pour la mise en relation avec Yann-Cédric. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok @serialentrepreneur. On devrait atteindre les 10 000 abonnés dans les prochaines heures, les prochains jours, donc un grand merci à vous. Et enfin, un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette offre. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Eh bien, salut Yann-Cédric, comment
salut,
tu vas?
Salut, ça va et toi?
Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast.
Merci, moi aussi je suis content d'être là.
T'as un sacré parcours. on va pouvoir en parler dans cet épisode. Un parcours autour du jeu vidéo notamment, mais pas que. Ce que j'aime savoir en démarrant les épisodes, c'est de savoir ce que t'as fait avant d'entreprendre, avant de te lancer.
Pas grand chose. J'ai eu le temps d'avoir mon bac, mais j'ai surtout joué aux jeux vidéo. J'ai eu une vie très très rythmée par les jeux vidéo. Dès tout petit, puisque je commençais à 3 ans. Et j'ai fait plein de choses comme tout jeune. J'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, mais j'ai surtout joué aux jeux vidéo. Et puis et voilà, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti faire mes études, soi-disant. Et en fait, j'ai jamais vraiment étudié. J'étais vraiment à fond dans... Enfin, c'était le début des jeux online. Donc, ouais. Mon enfance et mon adolescence avaient été très frustrés par le fait de ne pas pouvoir jouer à plusieurs, de pouvoir jouer avec des meilleurs joueurs, tout le temps faire de la compétition, de vouloir être le meilleur. Dès que j'ai eu accès aux jeux online, ça a été un crochet. Enfin, ça m'a accroché comme ça et je ne pouvais plus m'en décrocher, quoi.
C'est quoi les premiers jeux qui t'ont accroché, justement?
Alors, jeux online, vraiment, c'était Counter-Strike, les toutes premières versions. Donc là, on est sur des versions 1.2, 1.3, donc que les moins de 20 ans que je ne peux pas connaître. Mais ouais, voilà, les premières versions de Counter-Strike. À l'époque, on pouvait jouer en ligne à la plupart des jeux qui étaient nouveaux. Donc les Warcraft, Diablo, tout ça, c'était vraiment des... Blizzard était énormément prédominant, en fait, tous les jeux Blizzard. Et donc, quand World of Warcraft est arrivé, alors là, ça a pris d'assaut ma vie. De mes 19 à mes 24 ans, j'ai pas fait grand-chose d'autre.
Je crois que ta première expérience, c'est chez Millennium, un blog justement autour du jeu vidéo. Enfin, plus qu'un blog, une communauté autour du jeu vidéo.
Alors, première expérience jeu vidéo, oui, ouais. En termes de professionnalisme. Parce que j'étais dans la guilde Millennium sur World of Warcraft. Eux, ils se lançaient comme un site internet d'information autour de l'e-sport à partir de 2006-2007. Et moi, j'ai joué à World of Warcraft de 2004 à 2008, en gros. Et en 2007, début 2008, je me souviens jamais à quelle période exactement, j'ai arrêté de jouer à WoW et j'étais arrivé à un point dans ma vie où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc qu'est-ce que j'avais comme knowledge? Je connaissais WoW par cœur, du coup j'ai proposé mon aide à Millennium et ça s'est bien passé, je suis passé rapidement rédacteur en chef et puis après le site s'est développé et voilà, à partir de là ça a lancé les choses. Mais ma toute première expérience professionnelle d'entrepreneuriat, c'était un peu avant ça, c'était quelques années avant ça, j'avais créé une société de livraison d'apéritifs à domicile. Donc je livrais de l'alcool de 21h à 9h tous les soirs. Et c'était avant Internet, avant les téléphones, avant tout ça, on distribuait des flyers dans la rue.
Tout à la main.
Ouais, tout à la main. Mais vraiment à l'ancienne, ça c'était assez fou. Et j'avais un téléphone à clapet dans ma voiture. Et donc dès qu'on commandait, j'avais toujours... On avait un centre d'appel chez moi, c'était ma copine qui s'occupait de ça. Et les gens nous appelaient et elle m'appelait, elle me disait « Ouais, t'as une livraison de ça, telle date. » Et je passais mes nuits en bagnole à aller de droite à gauche. Et j'avais un stock dans le coffre et quand c'était vide, je revenais faire le plein et tout.
Et donc ça a duré combien de temps? Ça
a duré 6 mois, 4-5 mois en fait. Okay. Mais c'était vraiment, le but c'était vraiment de dire « Est-ce qu'on peut faire une entreprise en France ?» On était en 2003 ou 4, un truc comme ça, peut-être 4. Et c'était vraiment de dire « Est-ce qu'on peut faire une entreprise en France quoi ? Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça ?» Peut-être 2005. Et parce qu'à l'époque, moi mes deux parents étaient entrepreneurs et à l'époque on entendait partout qu'il fallait surtout pas créer d'entreprise en France, c'était impossible quoi. Et voilà, et donc c'était ma première expérience qui a donné naissance à tout le reste, tout ce qui a suivi ensuite, cette envie et surtout savoir que c'était faisable en fait. Parce qu'on l'a fait et ça marchait.
Tes deux parents étaient entrepreneurs, ils étaient entrepreneurs dans quel...
Alors, entrepreneur, c'est un bien grand mot. Enfin, c'est juste que
d'entreprendre, c'est très large.
Mes parents étaient indépendants. En gros, mon père a créé une agence immobilière. Donc ça, c'était vraiment de l'entrepreneuriat, mais un peu traditionnel, mais quand même, c'est lui qui l'a créé, quoi. Et ma mère était architecte à son compte. Okay. C'est pas freelance, ça s'appelle quoi, profession libérale.
Ok, donc il connaissait toutes les problématiques voilà. De l'entrepreneuriat, tous les risques, on va dire.
Voilà, j'ai grandi avec des parents qui n'avaient pas de patron, déjà. Donc ça, c'était déjà un truc dans ma tête, moi, avoir un patron, c'était pas possible, quoi. J'ai jamais réussi à me soumettre à l'autorité de qui que ce soit, donc pas à mes parents, pas à mes profs, donc encore moins un patron. Et puis de l'autre côté, bah, il y avait ce côté savoir se débrouiller, toujours avoir la tête dans le cambouis et enfin mettre la main à la pâte quoi, savoir que le personne va venir te sauver quoi, tu y vas et puis c'est toi qui te débrouilles tout seul et puis si ça marche si sinon bah tu t'as rien quoi.
Ouais, c'est clair.
T'es foutu.
Aller un peu vers l'inconnu quoi.
Ouais, voilà. Et puis se jeter à l'eau quoi et toujours aller de l'avant puis ouais, vraiment apprendre à enfin ne pas laisser tomber quoi. Très très jeune, j'ai appris à la persévérance et c'est le truc principal à mon avis qui compte quand t'es entrepreneur, c'est d'être persévérant quoi.
C'est un socle important.
Ouais. Ouais, parce que si dès qu'il y a un obstacle, tu t'arrêtes, tu vas pas aller très loin.
Rien
que l'administration, elle est faite pour ça, oui, de toute façon, elle est faite pour t'en empêcher. Donc...
Et encore, elle a évolué
ouais,
ces dernières années.
Ouais, de ouf. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est pas comme en 2005-6 et encore, j'imagine, c'est le pire avant.
Et donc, après Millennium, qu'est-ce que tu fais comme expérience?
Donc, Millennium, je rebondis, j'atterris chez Square Enix à Londres, donc en Angleterre. Oui, Londres en Angleterre, logique. Pas Londres ailleurs.
On mettra la map.
Pas un autre Londres. Ouais, voilà, là, avant le Brexit. À une époque, c'était facile d'aller vivre à Londres et de travailler à Londres. Et ouais, donc j'arrive à Square Enix, j'étais chargé de communauté chez Square Enix, ça veut tout dire hein, chez eux. À l'époque, Square Enix, c'est toujours le cas, c'est une société japonaise. Et les Japonais, ils ont quelque chose d'assez particulier avec les réseaux sociaux et les forums. Je crois qu'il y a une loi qui dit au Japon que si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur un forum, c'est le créateur c'est le possesseur du forum qui est responsable. Par exemple, si quelqu'un dit « je vais me suicider » et qu'il se suicide vraiment, c'est le possesseur du forum qui est responsable du suicide de la personne.
Ah ouais.
C'est un truc de ouf. Donc du coup, ils avaient quasiment aucune présence en ligne où les gens pouvaient commenter ce qu'ils voulaient, de peur que quelqu'un dise un truc de grave où je vais vous tuer et qu'il y avait vraiment un assassinat et voilà quoi. Donc bon, là je te dis des cas extrêmes, mais bon, ouais, n'importe quoi que quelqu'un aurait pu dire, en fait il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'en dédouaner, donc pas de présence en ligne. Et donc du coup, nous, nos présences en ligne, c'était que des présences où Square Enix parlait à ses clients. Et les clients ne pouvaient pas nous répondre. Donc c'était très très particulier comme expérience communautaire. Et ça m'a pas beaucoup plu. La gestion à la japonaise, c'était pas mon truc. Encore une fois, un peu le souci de se soumettre
carré,
à l'autorité. J'ai un peu de mal avec ça. Et du coup, je suis pas resté très longtemps. J'ai resté un an et demi. Et quand je suis rentré en France, donc là on était fin 2009. Ouais, en plus, il y a eu la crise économique entre temps, la crise de 2008. Mmh. Quand je suis arrivé à Londres, c'était en plus Square Enix, c'était à la City, donc c'est un peu la défense, c'est le côté boursier de Londres. il y avait des suicides tous les jours. Tous les jours, les métros étaient arrêtés parce que quelqu'un se jetait sous la rame. C'était infernal.
Et donc, quand t'arrives
là-dedans, t'es déjà dans une période de restructuration dans ta vie, machin et tout. Il y a la crise, donc toi, tu perds tout aussi. Enfin, j'avais pas grand-chose, donc ça, c'était pas très grave. Et là, d'un coup, tu te retrouves dans une ville chaotique. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, quoi. Et donc, cette période-là était un peu compliquée. Le boulot était pas ouf. Alors que j'adorais la ville et j'adorais ma vie là-bas, mais le reste c'était trop compliqué. Du coup, je suis rentré en France et là c'était le moment de la reconsolidation. Les gens commençaient à reprendre un petit peu foi en l'économie, il y avait des choses qui se lançaient, l'internet se développait de plus en plus, on commençait à voir à poindre la fibre optique. C'était le début où les réseaux sociaux commençaient vraiment à exploser, Facebook, Twitter surtout. Donc voilà, j'étais passionné de tout ça, j'étais à fond dans tout ça, tout ce qui était communautaire, tout ce qui était forum. Moi j'avais eu la chance de créer une guilde sur World of Warcraft qui m'a appris énormément de choses. Le management globalement, parce que manager une guilde quand t'as 19 ans alors que tout le monde peut avoir entre 14 et 50 ou 60 ans, c'est une galère sans nom. Et donc je me marrais bien et j'avais appris plein de choses, les forums, les machins, les trucs, et ce qui m'avait donné beaucoup de compétences en gestion de communauté online, donc savoir comment parler aux gens online, parce que c'est pas la même chose que dans la vraie vie. Et donc, en revenant en France à ce moment-là, j'ai eu envie de devenir community manager professionnel. J'ai d'abord été employé par un site qui s'appelle Jury Travail. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les marques, mais tu couperas.
Non, tu
qui c'est Jury Travail qui faisait du conseil en droit du travail. Et ils n'avaient pas de gestion communautaire. Et en fait, j'avais réussi à les convaincre que, là, on est en 2010, je crois, tu as plus d'argent à perdre en n'ayant pas une présence en ligne, que de payer juste quelqu'un pour la gérer, quoi. Donc il vaut mieux créer sa présence en ligne et la gérer que de pas le faire. Et en fait, tes clients vont te critiquer sur des forums et divers et variés sur lesquels tu n'auras pas la main. Des forums de critique aussi, hein, des Trustpilot, ces genres
ouais,
de choses.
Voilà.
Et en fait, si tu n'as pas la main là-dessus, s'il n'y a personne qui s'en occupe, en fait, tu peux perdre beaucoup plus de clients que ce dont les gens se rendent compte. Et donc à cette époque-là, toute ma réflexion était axée là-dessus. Et quand j'allais voir des nouveaux clients potentiels, je leur expliquais ça. Et donc ça a bien marché, au point où j'ai pu créer une agence de community management. Et donc, que j'ai créé, je crois, mi-2010, un truc comme ça. Et j'ai eu jusqu'à 2 employés, que je salue. Et on avait 5-6 clients, ça marchait super bien, on gagnait beaucoup d'argent. C'était vraiment une très bonne période. Et avec cet argent, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus. Et c'était l'époque où le film The Social Network sur Facebook était sorti. Je suis sorti du film, je me suis dit, mais moi aussi, je peux créer un truc mondial, planétaire, faire vraiment mon McDonald's, quoi. Et c'est à cette époque-là que les Barcraft ont commencé à se développer aux États-Unis. Donc les Barcraft, c'était organiser des soirées autour du jeu StarCraft 2 dans des bars traditionnels. Et aux États-Unis, comme d'habitude, c'est la folie des grandeurs. Ils avaient 600, 800 personnes. Eux, ils faisaient des entrées à 10, 15, 20 dollars. Et donc, du coup, ils faisaient beaucoup d'argent ces soirs-là.
Ouais.
Nous, on avait essayé de reproduire le modèle en France. Sauf qu'à Paris, trouver des endroits où tu peux accueillir jusqu'à 100 personnes, déjà, c'est hyper dur. Et faire payer 5-6 euros pour rentrer dans une soirée comme ça, les gens n'étaient pas prêts. Enfin, c'était compliqué. Donc, le business model n'a pas fonctionné en France. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer le Meltdown, donc qui était une franchise de... Enfin, au début, c'était pas une franchise, mais donc c'était une chaîne... Enfin, c'était un bar dédié à l'e-sport, mais pas une fois de temps en temps. C'était vraiment 7 jours sur 7, 100% e-sport. Et ça a cartonné.
C'est le premier concept de bar e-sport en France.
Dans le monde.
Dans le monde. Tout simplement.
Tout simplement, ouais, ça existe.
On est en 2012, quand tu lances ce premier bar.
Mm-hmm.
Comment ça se passe justement, ces premières étapes justement, de passer de créer un bar à créer une franchise, quelque chose de beaucoup plus gros?
Alors déjà, ça reprend très bien ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut persévérer. Parce que s'il y a bien une chose qui est difficile, c'est la gestion d'un bar quand tu n'as jamais géré un bar. C'est que des problèmes tout le temps. C'est pas que des problèmes avec tes clients quand c'est ouvert, c'est des problèmes 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a la plomberie, il y a les machines, il y a l'électricité, il y a Internet. En plus, nous, on s'était rajouté la complexité d'Internet. À une époque, comme je disais, c'était le début de la fibre optique et tout, et c'était compliqué de l'obtenir n'importe où. Nous, tout ce qu'on faisait, c'était des jeux en ligne. Donc, il fallait qu'il y ait en plus des ordinateurs qui tiennent. Donc, les clients, dis-toi bien, quand ils ont vu un ou verre ou deux, ils renversent le verre sur le clavier. Voilà, t'as perdu ton clavier. Des fois, tu perds carrément l'ordinateur. Enfin bon, une galère sans nom, 24 sur 24. Et on a vraiment tout eu, mais alors vraiment tout, de l'incendie à l'accident de voiture, à cambriolage, enfin vraiment, la vie ne nous a rien épargné. On a vraiment tout eu, mais ça te forme, quoi. C'est vraiment, t'avances, tu continues, tu te prends des balais dans la tronche toute la journée, mais en fait, tu continues, quoi. Parce que, en fait, on aimait trop ce qu'on faisait. Ça avait trop de succès quand on était ouvert. La communauté, elle était saucée. C'était incroyable. Un truc que je raconte souvent, c'est qu'on avait notre business model, c'était de faire 7000 euros par mois pour être even le premier mois. On a fait 7000 euros le premier week-end. Du coup, à partir de là, on a su qu'il y avait quelque chose. Tu vois.
Il y avait du potentiel.
Voilà, il y avait du potentiel et on allait peut-être devoir revoir le business model. Et voilà. Et donc, en fait, ça a cartonné dans tous les sens. On s'est acharné. On a continué à progresser. Et puis, on a eu l'opportunité très rapidement d'ouvrir un bar à Berlin et à Londres. Enfin, on avait décidé en fait d'ouvrir à Berlin et à Londres parce que on se disait il faut asseoir la marque en Europe et montrer qu'on est là et montrer à tout le monde dans les pays adjacents que tu vas pas prendre notre concept, c'est à nous. Et donc voilà, donc on est arrivé et on a lancé à Paris en mai 2012, à Berlin en février 2013 et à Londres en juin 2013. Donc en l'espace d'un an et un mois, on avait trois bars dans les trois capitales majeures d'Europe. Et c'était extraordinaire, on était visible, tous les médias sont emparés du truc. À Paris, on était fermé les trois quarts du temps trop tôt parce que les flics venaient, parce qu'il y avait trop de monde. Pour te donner une idée, à une époque, on avait tellement de clients dans le bar qu'on faisait deux étages de clients. C'est-à-dire qu'il y avait un premier étage des costauds et par-dessus, tu mettais soit des meufs minces, soit des mecs minces sur les épaules des autres.
Oh là là.
Tellement il y avait de gens qui voulaient rentrer. Après, j'exagère. Enfin, c'était pas tout le temps comme ça. Mais il y a eu des soirées où c'était comme ça, quoi. On avait trop de monde et les gens qui voulaient rentrer, on leur disait, c'est sur les épaules de quelqu'un. Et on servait des clients, ils étaient debout comme ça, au bar. Et il y avait un mec au-dessus et ils buvaient, quoi.
Okay.
Celui d'en dessous, il buvait, celui d'au-dessus, il buvait. Mais en fait, les mecs d'en dessous, ils supportaient même pas le poids parce qu'il y avait tellement de monde qu'en fait, tout le monde supportait le poids des gens qui étaient au-dessus.
Ça devait être dingue.
C'était débile. J'ai jamais vu ça ailleurs, hein, franchement. mais parce qu'on avait, alors il faut bien le dire, le premier bar, il faisait 42 mètres carrés. Donc,
ouais.
Tu remplis vite. Mais on a réussi à faire 120 personnes dedans, je crois. Donc, c'était vraiment abusé. Et donc, on avait un succès fou. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, mais on a un bar à Londres, un bar à Berlin qui était super grand. Et notre bar de Paris, on galère de ouf. Donc, entre-temps, on avait trouvé les moyens financiers d'ouvrir un nouveau bar à Paris. Et on avait vendu donc le premier avec une plus-value. On a ouvert le deuxième qui était à Bastille et lui qui faisait 300 mètres carrés. Donc là, on a pu accueillir tout le monde qu'on voulait. Et c'était vraiment génial. La soirée d'ouverture, on a fait 2800 personnes. Enfin, c'était... Et puis à l'époque, on était en partenariat avec O-Gaming, qui était les darons de l'e-sport, du commentary d'e-sport en France avec Bonfaitu des Chips et Noix. Tout le monde était fan d'eux dans le web. Et encore, on était au tout début de Twitch, tu vois. C'était vraiment le tout début.
Les prémices.
Et donc, c'était vraiment notre société évoluait énormément dans le monde de la nuit. Et eux, ils évoluaient dans le monde du web. Et c'était trop cool. On était partenaires, on était amis. C'était vraiment une belle époque pour grossir ensemble. Et donc, grâce à eux, on a commencé à avoir une visibilité nationale assez époustouflante. Et donc, de plus en plus de gens nous disaient, mais moi, j'aimerais bien avoir un meltdown à Lyon, j'aimerais bien à Lille, à Nantes, à machin. Et on a commencé à former des gens partout en France. Au début, on n'avait pas de franchise, donc on aidait les gens à le faire. Ils voulaient le faire, donc on leur expliquait ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait. Mais nous-mêmes, on ne savait pas trop. On savait qu'est-ce qu'on avait réussi à faire, mais pas trop pourquoi et comment ça marchait. Mais il y avait une grosse gestion community management, réseaux sociaux, qui m'avait de ma formation m'avait bien aidé. Mais voilà, donc on a commencé à voir que de plus en plus de gens voulaient le faire. Et là, en moins d'un an, je crois, entre l'ouverture de Berlin et de Londres, on a commencé à faire la paperasse pour créer la franchise. Sauf que en France, je crois que la franchise, c'est à partir de 3 ans d'existence.
Ok.
Normalement. Ta société mère, et nous c'était moins d'un an. Donc en fait, on a eu pas
c'est
mal de
con
problèmes.
Quand même, ce délai.
Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un truc légal. Je crois que c'était plus les us et coutumes, tu vois. Et en fait, les gens venaient nous voir, tous les gens avec qui on créait la franchise au niveau juridique, ils nous disaient, mais c'est pas possible, vous allez pas faire une franchise, sur quoi vous vous reposez.
Ouais.
Parce qu'en plus, la franchise c'est beaucoup basé sur ton business model, pourquoi il est différent de. Enfin, comment il se différencie de ceux qui font la même chose que toi. Genre, par exemple, quand tu fais Subway, qu'est-ce qui est différent de McDo? Nous, c'est Meltdown, qu'est-ce qui est différent de quoi? Qui fait des barres sport? Personne ne fait des barres sport. Donc, on n'avait aucune matière à comparaison. Donc, on ne se comparait à personne. On disait, vous allez faire comme nous. Et les gens qui voulaient vraiment, qui venaient nous voir, parce qu'on a eu plein de jeunes qui étaient passionnés du truc, et qui n'avaient jamais bossé, donc qui voulaient apprendre. Et eux, c'était facile de les convaincre, parce qu'eux, ils étaient déjà convaincus en arrivant. Mais il y a eu plein de groupes de financiers et de mecs dont le métier, c'est vraiment l'investissement et même limite de créer une, tu vois, genre ils allaient acheter 10 franchises d'un coup, tu vois, pas juste leur petit bar à Toulon, ils allaient dire nous on va prendre 10 bars en Suisse, tu vois, un truc comme ça par exemple. Et ces gens-là, par contre, pour les convaincre, eux, c'était une galère sans nom. Parce qu'on n'avait pas les, mots. Enfin, moi, j'avais pas fait d'études, tu vois, j'avais rien, quoi. J'avais juste appris sur le tas à faire des bars et j'avais une bonne idée, quoi.
Mais finalement, les financiers, tu les convaincs avec des...
On n'a jamais signé avec eux en Europe. Bah oui, mais les stats, malheureusement, elles étaient sur trop peu de temps. Un bar de 42 mètres carrés, tu pouvais pas comparer ça. Ou alors des stats à Londres et à Berlin qui sont pas du tout crédibles en France. Parce que, par exemple, à Berlin, tu vends une bière à l'époque, la pinte, elle devait être à 1,50€, 2€. Donc, en fait, c'est uniquement pas cher là-bas parce que la bière, tu l'achètes moins cher et que les loyers sont moins chers et que tout est moins cher, la main-d'œuvre est moins chère. Enfin, bref. Donc, tu pouvais pas comparer vraiment et c'était très compliqué. Et donc, on n'arrivait pas à les convaincre. On a fini par réussir à convaincre un groupe de financiers aux États-Unis. C'est eux qu'on voulu ouvrir toute la côte ouest des États-Unis. Et ça, c'était en 2015, tu vois. Donc, c'était 3 ans plus tard. Donc, on avait des stats et on avait un petit peu de bagou. Parce que toute l'année 2014, en fait, on a ouvert partout en France. Je crois qu'à un moment, il me semble que toutes les villes de plus de 100 000 habitants en France avaient un meltdown. Et donc, c'était n'importe quoi. C'était la gestion de Paris, du nouveau bar de Paris. Donc, il y a eu tous les travaux du nouveau bar de Paris qui ont été une bérésina. C'était incroyable. Pour te donner une autre petite anecdote, le jour de l'ouverture du bar de Paris, le 23 décembre 2013, le matin même, on n'avait ni l'eau courante ni l'électricité. Le matin même. Et on attendait 3000 personnes le soir.
C'est souvent ça qui arrive en plus.
Dans ces secteurs-là,
et toujours.
C'était n'importe quoi. Je me souviens de tout ça comme si c'était hier, quoi. Je l'ai vécu, à la vitesse de la lumière, quoi. Tu sais, il n'y a jamais un moment pour se reposer, pour prendre du recul et se dire, oh, c'est galère ce que je fais. J'avais eu une interview à l'époque où quelqu'un m'avait dit, mais si c'était à refaire, vous le referiez. Et je dis, mais maintenant que je le sais, je le ferai jamais. Si tu le sais avant tout ce qui t'attend, tu le feras jamais. C'est impossible. Ouais. Il faut le faire sans savoir. Sinon, tu te jetteras jamais dans la gueule du loup, quoi. Parce que tu sais que tu vas crever. C'est une galère sans nom. Bref. Donc, quand les problèmes viennent les uns après les autres au jour le jour, bah, tu les règles les uns après les autres. Quand tu sais que tu as 1 milliard de problèmes, on te donne toute la liste de tout ce que tu vas devoir affronter. Tu dis, non, mais je vais pas faire les 12 travaux d'Astérix tous les jours, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc on a réussi quand même, on est arrivé à nos fins. Et puis arrive fin 2015, commence à avoir des divergences d'opinion au sein des actionnaires de l'entreprise, donc on se sépare, je décide de partir et à ce moment-là je me lance dans l'aventure Gamers Origin.
Exactement, tu te lances sur plusieurs activités.
Ouais.
Donc Gamers Origin en tant que Head of eSport.
Ouais.
Tu fais également du consulting et également de l'investissement.
Voilà. Alors, c'est venu les unes après les autres. Il se trouve que donc, quand j'ai quitté Meltdown, j'étais encore actionnaire. J'étais juste plus actif. Et donc là, Gamers Origin, à l'époque, donc Guillaume Merlini, le créateur de Gamers Origin, était un client du Meltdown. Il faisait des events au sein du Meltdown. Et j'avais vu comment il travaillait et je trouvais qu'il était prodigieux. Et je trouve toujours qu'il est prodigieux. Il travaillait comme un forcené, c'est un passionné. Il est comme moi un peu, il n'a jamais besoin de se reposer. Il est tout le temps à fond. Enfin, il est comme moi j'étais à cette époque-là. J'ai 37 ans maintenant, c'est plus du tout la même histoire. Mais donc voilà, je le voyais, j'étais fan de ce gars qui avait 18-19 ans et qu'on voulait qu'il vraiment donnait à fond. Et donc il était en train de créer une grosse chaîne de streaming en France qui s'appelait Hearthstone FR. Et donc je l'ai aidé en rentrant un peu dans la boîte. Le but c'était de l'aider à rendre la boîte solide en termes de finances, d'administratif et tout, parce que moi j'avais créé tout ce qui était, enfin j'étais le DAF de Meltdown, donc j'avais créé toute la partie administrative, j'avais tout appris sur le tas.
Structurer le côté voilà. Pro.
Exactement. Parce que lui il était à fond e-sport et stream, mais tout ce qui était gestion de société, il avait aucune expérience en la matière. Maintenant il a 100 fois plus d'expérience que moi, mais à l'époque il n'avait pas. Et surtout c'était super chiant de s'occuper de ça alors qu'il y avait tout le reste à faire. Donc je lui ai dit, écoute, moi je vais pas m'occuper de tout ça. Moi j'avais un autre projet sur lequel je voulais qu'il m'aide. Je lui ai dit, bah je t'aide sur ce truc là et après tu m'aideras sur mon autre truc, parce que c'était un projet de streaming. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai commencé à aller en compétition avec les joueurs de Gamers Origin parce qu'il fallait quelqu'un pour conduire des bagnoles et tout. J'étais le seul qui avait le permis. Et en fait, les joueurs, on s'est super bien entendus. Moi, chez Meltdown, j'avais déjà commencé à recruter des joueurs. Chez Millennium, à l'époque, j'avais déjà des joueurs en management. Enfin, on avait plein de joueurs e-sport, donc j'adorais ça. Et je les accompagnais en compétition. À l'époque, j'étais journaliste, mais tu vois, c'était vraiment... On était tous à mettre la main à la pâte. Et du coup... J'ai toujours eu un très bon contact avec les joueurs pro, vu que moi j'avais voulu être joueur pro aussi, je connaissais ce que c'était. Et donc voilà, et donc arrive le moment où Gamers Origin explose dans l'e-sport. Enfin, on était hyper gros sur Hearthstone. Overwatch va arriver, on se lance sur Overwatch. Alors je sais pas si ton public connaît trop les jeux vidéo, mais Overwatch c'était un gros jeu Blizzard qui sortait à cette époque-là, il n'y en avait pas eu depuis des années. Et donc Blizzard étant le plus gros studio de jeux vidéo, un des plus gros studios de jeux vidéo dans le monde à l'époque, tout le monde l'attendait comme le Messi. On avait dit, il faut pas rater le coche, on va lancer une équipe e-sport dessus tout de suite. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est très vite arrivé numéro 1 français et numéro 5 européen, ce qui a propulsé l'équipe en termes de réputation, alors qu'on était une toute petite structure par rapport à des Fnatic, G2 et compagnie. Et même Millennium et d'autres gros noms français étaient beaucoup plus connus que nous. Et nous, on est arrivé avec rien. Et en fait, grâce à ces stratégies, et on a eu pas mal de coups de chance, on a réussi à grossir très vite. Et donc, petit à petit, mon autre projet est un peu parti. Et en même temps, donc un an plus tard avant mon arrivée chez Géo, j'ai pu vendre mes actions de Meltdown, ce qui m'a garanti un certain pécule. Et donc, avec ce pécule, j'ai créé l'agence de talent, LNL Consulting, qui est une agence de talent et de consulting, où en gros, on aide des streamers ou des joueurs e-sport à trouver des partenaires avec lesquels travailler. Et de l'autre côté, donc effectivement, une boîte d'investissement qui s'appelle YCM et dans laquelle j'ai pu, grâce à laquelle, une holding en haut, laquelle j'ai pu investir sur pas mal de projets différents. Et voilà. Et donc, j'ai fait tout ça de front de 2016 à 2018, un truc comme ça.
Ok. Quand tu rejoins Gamers Origin, le game du e-sport, il en est où, tu vois ? Parce que c'est quand même un milieu qui a extrêmement cartonné ces dernières années. Mm-hmm. Qui est vraiment en explosion totale, à tel point que, enfin, je sais pas, il y a 5-10 ans, c'était un milieu qui n'était pas du tout respecté. On voyait les joueurs e-sport comme... Enfin, le e-sport n'existait pas, et on voyait les joueurs comme des gros geeks, etc. On l'a vu dans certaines émissions télé. Télé méprisait complètement ce milieu-là.
Aujourd'hui, encore un peu le cas.
moins, mais c'est encore un peu le cas. Mais c'est devenu un milieu hyper bankable, et maintenant la télé se dit, ok...
Qu'est-ce qu'on a raté Déjà, ils ont déjà fait l'erreur avec Internet à la base.
C'est vrai.
Parce que la télé, ça a été la diabolisation d'Internet pendant des années, pendant 10 ans. On va dire de 2000 à 2010, la télé a diabolisé Internet à fond. Puis les réseaux sociaux ont pris d'assaut le monde, entre guillemets. Tu pouvais pas avoir un journaliste qui disait « j'ai pas de Facebook », quoi. Enfin, les gens qui étaient à la télé savaient que Internet n'était pas le diable et que c'était juste quelque chose avec... une chose avec laquelle il fallait avoir vivre. C'est un peu ce qui se passe avec la crypto en ce moment. Les gens, une grande partie des gens ne comprennent pas ce qui se passe, la révolution qui est en marche. Et même si le marché aujourd'hui fait la gueule, ça fait partie de la loi des marchés. C'est par cycle. Mais entre guillemets, donc l'e-sport a eu ça pour sa propre diabolisation, effectivement. Les jeux vidéo traditionnels ont diabolisé l'e-sport pendant un temps. Donc même le marché des jeux vidéo n'aimait pas, les journalistes de jeux vidéo n'aimaient pas l'e-sport et tout, parce que pour eux, ça dénaturait le plaisir de jouer à un jeu vidéo, puisque nous, on n'est pas là pour du plaisir. Beaucoup de joueurs prennent beaucoup de plaisir, le but, c'est quand même de gagner et d'être compétitif. Mais bon, on ne m'enlèvera jamais de l'idée que Rafael Nadal, il kiffe de faire du tennis, tu vois. Donc c'est pas parce que t'es compétitif dans quelque chose que tu ne peux pas y prendre du plaisir. Et bref, et donc... Et donc le truc a évolué en 2015 quand j'ai rejoint Géo. C'était, alors moi, toute ma vie c'était de l'e-sport, ça faisait 10 ans que je faisais que ça, enfin peut-être pas 10 ans, mais ça faisait 7-8 ans que j'avais que ça dans ma vie, donc pour moi c'était évident, quoi. Mais j'avais pas trop cette vision, effectivement, que le monde extérieur ne nous comprenait pas, à part ma famille, tu vois. Moi, j'avais pas trop de relations avec les gens en dehors, quoi, parce que ma vie entière était que des gens de l'e-sport, des gens dans le bar, et dans le bar c'était que des fans d'e-sport. Donc
t'as baigné dans cet écosystème.
J'avais des œillères en plus, puisque moi j'avais que ça, j'ai pas le temps, je m'en foutais du reste, donc c'était vraiment que ça. Et puis en réalité, oui, maintenant, à posteriori, je me rends compte que c'était complètement anecdotique à l'époque. Personne s'en souciait. Et je pense, à mes yeux, c'est à partir de 2016, quand les clubs de sport traditionnels, donc de football, ont commencé à vouloir investir dans FIFA. Je pense que c'est là que le gap a énormément été creusé. La plupart des gens ont commencé à entendre parler de l'e-sport via le football, enfin FIFA, quoi. Ce qui m'a toujours fait beaucoup de peine, puisque pour moi, FIFA, c'est pas un jeu e-sport. Même si tu peux très bien jouer à FIFA, je vois pas l'intérêt de reproduire. Enfin, tu vois, ça existe déjà, quoi, donc pourquoi ? D'ailleurs, une blague que je fais souvent, mais maintenant, tu sais qu'il y a des gens qui font du football en vrai, ils jouent à FIFA en vrai, tu sais, sur un terrain, mais vraiment, ils courent après des vrais ballons, c'est pas à la manette.
Il y avait FIFA avant le football.
C'est pour me foutre de la gueule des gens qui connaissent pas l'e-sport, on va vraiment à l'absurde, mais c'est parce que on en est vraiment rendu là, à des moments, on se dit, mais comment vous pouvez ne pas connaître, quoi ? Tellement c'est évident pour moi que l'e-sport, c'est quelque chose.
Après, si ça a aidé à démocratiser le e-sport, tu vois.
Mais en fait, moi, j'ai rien contre ce truc-là. C'était un regret, parce que j'aurais préféré que les gens s'intéressent à LoL ou à StarCraft.
Bien sûr.
Mais bon, il faut ce qu'il faut, et voilà, les gens sont intéressés à FIFA. Ça a commencé à prendre, et très vite, les gens qui sont intéressés à FIFA ont tout de suite décollé, parce que FIFA n'avait aucune audience. Hein. Vraiment, FIFA a très, très, très peu fait d'audience. tout de suite, les gens se sont intéressés au reste de l'e-sport. Donc, ils ont connu, je pense, plus Twitch que l'e-sport au début. Donc, ils ont rencontré FIFA, du coup, ils ont rencontré Twitch. Twitch a décollé aussi, ah oui, c'est ça. Twitch a décollé de ouf. Et ça, c'est parce que la fibre optique s'est installée partout. Les gens pouvaient enfin streamer chez eux. Et de plus en plus de gens sont installés dans le streaming. On a eu des entertainers, youtubeurs d'abord pendant des années. Je pense que les années 2011 à 14-15, c'était le grand essor de YouTube. Et puis à partir de 2016-17, je pense que c'est Twitch qui a pris le pas en France en tout cas.
Exactement.
Et nous, bah, on était au centre de Twitch, quoi. Tu pouvais pas aller sur Twitch sans voir de l'e-sport. Enfin, sauf si tu regardais juste ton streamer et que ton streamer ou ta streameuse ne faisait pas d'e-sport à ce moment-là. Oui, que t'avais juste un onglet, tu vois. Mais si tu regardais un tout petit peu ce qui se passait sur Twitch, il y avait que de l'e-sport partout.
Ouais.
À l'époque, beaucoup plus que maintenant d'ailleurs.
Et Twitch, je pense, a vraiment contribué à faire exploser justement le e-sport et les jeux vidéo. Et faire le fait que justement, ça devienne des outils avec une force de frappe de ouf, en fait. Avec un nombre de viewers.
Ça décolle de chaque année, ça explose. Une chose qu'on m'avait fait comprendre à une époque qui est assez marrante, quand on s'en rend compte, c'est assez époustouflant, c'est par exemple, si tu es fan de baseball, regardez la Ligue américaine de baseball, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un VPN, il faut s'inscrire, enfin, tout le monde peut faire ça en deux secondes. Alors que regardez la Ligue de League of Legends chinoise par exemple, tu peux la regarder où tu veux dans le monde, en live, quand tu veux, c'est sur Twitch quoi. Tu n'as aucun blocage, c'est gratuit, c'est accès 24h sur 24, presque sans pub. Et voilà, et t'as accès à la ligue chinoise de League of Legends. Et en fait, League of Legends, c'est accessible partout, par tout le monde. C'est les premiers sports globaux, en fait. Parce que même regarder, je sais pas, si t'es fan de football, tu vas regarder la ligue brésilienne de football, va galérer, quoi. J'ai aucune idée comment tu peux faire ça. Après, à part acheter toutes les chaînes de TV et machin et trucs et payer je sais pas. Enfin, j'imagine que peut-être même que c'est possible si t'es vraiment fan. Mais monsieur tout le monde ne le fera pas. Alors que monsieur tout le monde peut cliquer sur Twitch et aller accéder à tout l'e-sport mondial sans aucun problème.
Puis n'importe qui aussi, avec du taf, peut devenir joueur e-sport, tu vois. Avec du taf.
Alors ça, j'irai pas jusque-là.
N'importe qui, pas dans le sens tout le monde, mais n'importe qui dans le sens, tu vois.
C'est à la portée de qui veut le faire.
Exactement.
Mais il faut avoir le talent pour.
Bien sûr.
Parce que beaucoup de gens pensent que n'importe qui peut devenir très fort.
Non, je dis pas ça. Non.
C'est comme si tu disais n'importe qui peut battre Rafael Nadal au tennis en travaillant.
Mais c'est comme l'entrepreneuriat, tu vois. N'importe qui peut devenir entrepreneur, mais pas tout le monde. Tu vois.
C'est vrai.
Vraiment la différence entre.
Mais je pense que par exemple, tout le monde peut pas être peintre, tout le monde peut pas être pianiste, tout le monde peut pas être guitariste. Enfin, il faut un talent, il faut une il faut plein de choses qui font que un guitariste par exemple il est hyper agile de ses doigts ou comme un pianiste. Si t'as pas cette agilité dans les doigts et même si tu la travailles, tu pourras pas devenir virtuose quoi. Et encore guitariste, il y a pas un enfin là on parle d'être champion du monde de guitariste, tu vois. Enfin je veux dire tu peux devenir joueur de League of Legends. Non mais en vrai, guitariste, t'as des bons guitaristes, des mauvais guitaristes.
Oui, bien sûr.
À peu près tout le monde peut devenir monsieur tout le monde. Par contre devenir un guitariste de renom, Django Reinhardt ou autre, c'est pas n'importe qui quoi.
C'est clair.
Donc mais là c'est la même chose à League of Legends, devenir champion de France ou champion d'Europe de League of Legends, ça n'est pas donné à tout le monde. Par contre tout le monde peut être très fort en League of Legends. Et voilà, et donc ça s'est démocratisé et nous on était là au bon moment, au bon endroit. Géo était parmi les premières équipes françaises qui ont vraiment bénéficié du renouveau, parce qu'il y avait les équipes françaises comme AA, LDLC, Millennium qui étaient inscrites depuis longtemps, LDLC étant une des dernières de cette époque-là qui est encore vivante. Millennium s'est arrêté en 2017 à peu près, je crois, 2018. Et en fait, nous, on a un peu pris la place de Millennium. C'est-à-dire qu'on a commencé à arriver avec des plus petits salaires. On n'avait pas d'argent, mais on avait des plus petits salaires, mais on avait plus de motivation. Et nos joueurs étaient moins mercenaires chez Millennium. C'était que des gars qui venaient, ils savaient qu'il y avait de la thune. Du coup, ils avaient eu de la lumière, ils rentraient, quoi. Nous, c'était vraiment les gars qui étaient chez nous. C'était à l'ancienne. On était dans la cave. On avait des locaux à l'époque. C'était une cave et tout. Et on rigolait de ça, tu vois. On galérait tous, mais tout le monde, quand t'arrivais chez Géo, tu voulais faire avancer l'équipe, quoi. Et c'était génial, c'était vraiment l'époque bénie et donc on a surfé sur ça. Moi je passais mes week-ends à conduire ma bagnole, à emmener les joueurs à droite à gauche dans le monde entier, enfin dans toutes les régions parce qu'on n'avait pas les moyens, donc on allait en bagnole. Je me souviens d'un voyage à Birmingham, 18 heures de voiture, je rentrais à peine de vacances, il était 5 heures du matin quand j'étais rentré de vacances, j'avais conduit toute la journée, on était arrivé à minuit à Birmingham, complètement mort sous dans une tempête et machin, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ma vie quoi, que je fous là et tout. Et en plus j'avais pas pris de vacances entre Meldon et ça, tu vois, j'avais enchaîné 3 ou 4 ans de construction de Meldon et tout construire une équipe e-sport et c'était non-stop quoi, c'était tout le temps.
Qui est pas un projet on est sur un marché quand même qui était tout
neuf. Et donc c'était cool. En parallèle de ça, le streaming se développait. Nous on a progressivement lâché le streaming jusqu'à fin 2018 et en fin 2018 on a complètement arrêté parce qu'entre temps on avait levé des fonds pour vraiment devenir un club e-sport au standing et donc on a ouvert un centre d'entraînement pour joueurs professionnels à Paris qui fait 900 mètres carrés, qui est situé à Breguet-Savin, donc à côté de Bastille, vraiment en plein cœur de Paris. Et on était parti sur un système de, on loue des appartements pour que les joueurs viennent vivre dedans et qu'ils aient une vraie vie humaine. Pas comme des joueurs geeks, comme tu disais tout à l'heure, un peu les yeux rivés à l'écran 24/24. Vraiment, nous, on avait un centre d'entraînement où tu venais, tu avais accès à un ostéopathe, une diététicienne, un coach mental. Enfin, vraiment, tu as accès à plein de staff qui vont t'aider à faire de toi un athlète et non pas juste un nerd. Et donc, à côté de ça, tu as une vie. Donc, tu rentres le soir chez toi, tu marches, tu prends le métro, tu prends ta trottinette, tu prends ce que tu veux et tu rentres chez toi, quoi. Et tu te fais à manger, tu dînes.
Ouais, exactement de la même manière qu'un club, par exemple, de foot professionnel. Ouais,
exactement.
Quoi.
Quand on a commencé à adopter cette façon-là de fonctionner, ça a commencé à bien cartonner pour nous, puisque 2019, on a lancé la machine. Donc, on a eu la levée de fonds de fin 2018. 2019, on s'est installé dans ces nouveaux locaux. Et 2020, on a été double champion de France de League of Legends, qui est la grosse compétition en France. Qui fait parler de nous, de tout le monde. Enfin, on en entend beaucoup parler avec Ameto Corp, avec la LFL et tout ça. La deuxième année de la LFL. La première année 2019, c'était la mise en place. On a fini troisième. Donc, ce qui n'était pas si mal, mais en fait, comme 2017-2018, on est numéro 1 français. En 2019, quand
forcément,
on était troisième,
c'est une petite déception.
Et 2020, on a concrétisé en redevenant deux fois premier. 2021 a été encore un peu plus difficile. 2022, on redémarre et là, on espère faire un bon summer split qui va démarrer dans deux semaines.
C'est quoi le parallèle que tu fais entre le e-sport et l'entrepreneuriat ?
Pour moi, les deux vont ensemble, en fait. Alors, j'ai fait de l'entrepreneuriat en dehors de l'e-sport. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec beaucoup de startups dans plein de domaines différents et je sais ce que ça représente de ne pas faire de l'e-sport dans l'entrepreneuriat. Et ma toute première boîte, d'ailleurs, n'était pas e-sport. À l'époque, ça n'existait même pas, en 2002-2003. Pour moi, tout ça, ça représente l'effort, en fait. C'est de l'effort au quotidien. Même si maintenant, ça fait, 4-5 ans que ce n'est plus un effort, parce que c'est beaucoup moins compliqué à gérer une équipe que à gérer des bars. Parce que là, j'ai pas des problèmes de tout. Même s'il y a beaucoup de problèmes qui sont dus aux joueurs, qui sont toujours des petits pets de travers.
Problèmes humains,
c'est des problèmes humains.
Logistique.
Et c'est souvent facile à résoudre, tu vois. Ouais. Genre, il y en a un qui a oublié un truc au bureau. Bon, faut retourner lui ouvrir le bureau, ce genre de conneries. Mais c'est pas une machine à glaçons qui a explosé à 3 heures du matin et une inondation, quoi. Ou un incendie dans le plafond, des conneries comme ça. C'est jamais ça. Donc, on a des petits dramas de temps en temps, mais ça reste très facile à gérer. Par contre, ça fait 4-5 ans que pour moi, c'est beaucoup moins difficile au niveau humain, au niveau personnel, quoi. J'arrive à avoir une vie personnelle, j'arrive à sortir, j'arrive à prendre des vacances, à voir ma famille et tout. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque du Melt. Et mais ça reste de l'effort, être constamment en train de construire, d'innover, de se tenir au courant, de devoir prouver que t'es encore le meilleur, que t'es encore là, que t'es encore compétitif par rapport à tout le monde, que t'es pas dépassé par les événements. Et c'est pas toujours facile parce que les jeunes générations arrivent, eux sont très 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 performants, ont toujours de bonnes idées, et ça se renouvelle tout le temps. Par exemple, quelque chose qui est arrivé énormément ces dernières années dans l'e-sport, c'est le marketing d'influence, qui était pas du tout présent avant. Avant, un joueur d'e-sport, ce qu'on attendait de lui, c'est que ce soit le meilleur. Maintenant, un joueur d'e-sport, il doit être à la fois bon, mais en plus, il doit être marketable. Et ça, c'est très compliqué. Il y en a qui ne sont pas du tout marketable, qui détestent, par exemple, répondre à une interview, qui vont pas faire attention à eux, qui vont être souvent un peu débraillés ou quoi. Bon, ça peut plaire, mais c'est pas forcément ce que recherchent les marques qui veulent s'adosser à des, enfin, qui veulent adosser leur nom à un joueur. Donc, il a fallu apprendre tout ça, il a fallu surfer sur tout ça. Maintenant, le streaming prend énormément l'emphase sur juste les réseaux sociaux. Donc, il faut être aussi dans le streaming, il faut être présent. Et tout ça, c'est pas ma génération. Moi, ma génération e-sportive, c'est vraiment faire des joueurs les meilleurs joueurs possibles, quoi. Et les
là,
aider.
Il y a toute une stratégie autour du fait de jouer.
Ouais, du fait de jouer,
de la
marque.
Une strat digitale, une strat marketing.
Très, très difficile. Et pour les vieux comme moi, je suis un peu dépassé. Je sens que j'arrive un peu à la fin de ce que j'ai de la période de l'âge d'or de ce que je savais faire et de ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que des fois on me demande, on me dit ouais Yann, il faut que t'accompagnes les joueurs à tel truc. Et ça m'intéresse pas, quoi. C'est marrant, mais ça m'intéresse pas forcément, quoi. Et donc je sens que les jeunes poussent et que c'est normal, hein, de toute façon c'est le cycle de la vie, hein. Moi j'ai été là, ça fait quand même bientôt 17-18 ans que je fais de l'e-sport. Il est temps que je laisse la place aux jeunes, même s'il y en a qui sont plus âgés que moi, et il y en a plus beaucoup en France qui sont plus âgés que moi, qui sont encore là. Je sais pas, c'est peut-être le moment que je fasse autre chose que ce que je fais. Je suis pas obligé de partir de l'e-sport, tu vois, je sais que ça reste ma passion et que j'ai encore envie d'en faire des années, mais faire d'autres choses que de la gestion de joueurs et de la gestion d'équipe peut-être.
Donc aujourd'hui, Géo, c'est une des plus grosses teams e-sport françaises.
Oui.
Je vais te poser trois petites questions, un peu bilan sur, sur tes aventures.
Okay.
La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile, vraiment le moment le plus difficile de tes aventures entrepreneuriales? Un moment clé, tu vois.
La période la plus difficile, c'est la transition fin de Meltdown. Parce qu'en partant du Meltdown, j'ai eu l'impression d'abandonner tous les gens qui avaient cru en moi. Parce que j'avais quand même signé 26 franchises à l'époque. On va dire qu'ils étaient au moins 3-4 par projet. Donc on va dire une centaine de personnes dans le monde entier. Donc il y en avait partout en Europe. Enfin, le monde entier, c'est un bien grand mot. Mais il y en avait aux États-Unis, au Canada, partout en Europe. Et j'avais des gens qui m'attendaient des nouvelles de moi un peu partout. Je me souviens d'un projet à Jakarta, tu vois, enfin des trucs. Dans ma tête, je me disais, mais incroyable, je vais ouvrir un bar à Jakarta. Et donc, tous ces gens-là, j'ai eu un peu l'impression de les let down et de partir avec un goût d'inachevé. Mais finalement, ce que j'ai fait ensuite m'a beaucoup plu et ça, j'ai réussi à rebondir et à passer à autre chose. Et en plus, enfin, à ma connaissance, aucun franchisé ne m'en a jamais voulu. Ils étaient déçus aussi, mais ils ne m'en ont pas voulu. Je suis resté très ami avec plein d'entre eux. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, je me balade quasiment n'importe où en Europe, j'ai des amis, quoi. Je peux aller à Budapest, j'ai des super potes. Je peux aller à Lisbonne, j'ai des super potes. Je peux aller un peu partout parce que j'ai ouvert des bars là-bas et que j'étais vraiment ami avec les patrons des bars. Et ils m'ont tous hébergé. J'habitais chez l'habitant, donc c'était vraiment une bonne période. Mais donc, pour répondre à la question, je pense que c'est vraiment cette transition. Fin Meltdown a été compliqué à gérer, cette déception.
Okay.
C'était la première question, je crois.
C'était la première,
ouais.
Exactement. Et je passe à la deuxième. C'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Bah, mine de rien. Alors, entre Meltdown et Géo, j'ai du mal à dire que je suis plus fier de l'un ou de l'autre. Mais Meltdown, c'était... Je pense que c'est ce qui laissera ma marque... Enfin, en tout cas, personnellement, je considère que j'ai laissé ma marque dans l'histoire parce que j'ai créé quelque chose qui n'existait pas. C'est vraiment l'idée de Bar eSport. Quand j'ai eu cette idée, peut-être quelqu'un l'avait déjà eu, mais personne ne l'a mis sur le terrain. Et donc, à partir de là... C'est comme j'avais dit, j'étais sorti de...
C'était ta volonté de...
Voilà, j'étais sorti de The Social Network en disant, moi aussi je peux inventer mon McDonald's, j'ai inventé mon McDonald's et je l'ai mis sur terre. Mais en réalité, je suis très très fier de tous les accomplissements qu'on a fait avec Géo, parce qu'on est venu de rien, on n'avait pas d'argent. On se souvient souvent qu'avec Guillaume et notre autre associé, Jonathan Damet, on était à trois dans le salon de Guillaume pendant 6 mois, enfin pas 6 mois, mais 4-5 mois avant qu'on ait nos premiers locaux. Et on avait créé la boîte avec 1000 balles, quoi. Et maintenant, elle vaut plusieurs millions. Donc,
c'est
aussi un très bel accomplissement. Donc, ces deux projets sont vraiment mes grandes fiertés. Mais à côté de ça, j'ai eu tellement de choses qui m'ont rendu fier. J'ai créé un restaurant, la chaîne Restaurant Gourou.
D'autres projets de restauration.
Ouais, ouais, on en s'est a pas lancé parlé, avec mais... des amis dans la restauration Gourou, Oni, Fissure, Fusion. Voilà, il y a plein de marques comme ça qu'on a créées avec des potes et dont je suis extrêmement fier parce que on a réussi à survivre au Covid, on a réussi à créer un groupe de gens qui aiment travailler ensemble, on kiffe, même si c'est très difficile, que les temps sont durs, qu'on gagne pas beaucoup d'argent et même qu'on en perd souvent. On reste très soudés, on est vraiment un groupe de gens qui adoreront travailler ensemble et on continue et on a plein de projets pour l'avenir qui, maintenant que le Covid est passé, on pense que la restauration ça reste quelque chose que les gens adorent faire.
Bien sûr.
Et donc voilà, on a plein d'idées qui arrivent et j'ai hâte que ça soit révélé.
On n'a pas parlé de l'impact de la pandémie sur tes business.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait en...
Ah, si tu veux,
tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus.
Ça a été très dur. En gros, pré-Covid, j'avais 12 sociétés, j'étais actionnaire de 12 sociétés qui étaient vraiment solides et qui allaient continuer, dont une Shadow, qui sont les ordinateurs Long
Shadow Tech.
J'étais un des premiers actionnaires, donc c'était énorme. Et Shadow a fait faillite pendant le Covid. Et comme c'était une des plus grosses sociétés que j'avais, je peux te dire que la plupart, elles ont vraiment coulé. Mais je crois que j'en ai sauvé 6 sur les 12. Enfin, j'ai sauvé, c'est pas moi tout seul, mais il y en a 6 sur les 12 qui ont survécu. Et donc, on continue avec ce qui survit. Et puis, on crée des nouvelles choses. Là, j'ai des nouveaux projets qui vont sortir. Et j'arrête pas. Je sais pas dire, ça y est, c'est bon, j'ai créé suffisamment de boîtes. Là, au total, j'ai créé. Là, la prochaine boîte que j'ai créée, ça sera la 39e.
C'est un vrai serial entrepreneur, en fait.
Ouais. Mais après, je dis 39 sociétés, c'est 39 projets, quoi.
Oui, oui.
Les 39 n'ont pas été des statuts déposés.
Numéro de tirette, etc.
Il y a au moins, je pense, au moins une quinzaine qui ont eu une existence à un moment.
Donc, pandémie hyper impactante, quoi.
Ouais, je pense. Enfin, là, maintenant, je rencontre de nouveau plein de gens comme avant. Et c'est incroyable le nombre de gens que tu rencontres qui avaient des idées, des projets et qui tout est mort à cause du Covid. Hier soir, j'étais avec une jeune femme que j'avais jamais vue de ma vie et qui, on parlait de, je sais plus comment on était tombé à parler du Covid. Et elle m'a dit, moi, toute ma vie s'est arrêtée 2 jours avant le Covid, à cause du Covid, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable le nombre de gens qui ont été impactés par cette crise. Mais bon, c'est évident que quand le monde entier est immobilisé, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent.
C'est clair.
Je pense souvent à ce drame qui m'avait été arrivé le samedi soir où ils ont fermé tous les restaurants. J'étais à Berlin ce soir-là. C'est le samedi soir juste avant la fermeture en France. Nous, c'était le mardi. Ils avaient fermé le samedi. Tous les restaurants de Berlin, mais bon, de toute façon, les trois quarts des restaurants du monde ont jeté toute leur bouffe. Parce que du jour au lendemain, on a dit c'est fermé. Voilà. Donc imagine le stock mondial de nourriture qui est arrivé, qui devait être dans les estomacs des 6 milliards et demi d'humains le lendemain, mais qui finalement se retrouvait à la poubelle. C'est incroyable quand on y réfléchit sur Terre, quand tu penses au nombre de restaurants, d'endroits où il y a de la bouffe stockée, qui du jour au lendemain n'était pas utilisée parce qu'on ne pouvait même pas la donner aux autres. On ne pouvait la donner à personne parce qu'on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, mais c'est incroyable. Ouais, donc ça, c'est juste une considération, mais tout le reste, dans tous les domaines.
C'était catastrophique, c'est clair. Et pour passer à la troisième et dernière question de cette partie, c'est quels sont un peu tes objectifs futurs et où est-ce que tu te vois un peu, tu vois, dans ces prochaines années, ce que tu as envie de faire?
J'en ai un tout petit peu parlé au début de l'interview. Je suis très, très intéressé par la crypto. Donc ça fait un petit moment, le Covid en fait. on était tous chez nous à nous ennuyer. Moi je me suis dit, au lieu de perdre mon temps à rien faire, je vais m'intéresser à un domaine que je connais pas mais dont on me parlait depuis des années. Pour la petite histoire, la première fois qu'on m'a parlé de Bitcoin, c'était en 2012. Trois clients qui étaient venus au bar pour m'acheter des bières en Bitcoin. Et j'avais dit non. Ils m'avaient dit 1 euro, 1 Bitcoin. Voilà, donc j'ai perdu l'occasion de racheter le Qatar. Mais ouais, non, incroyable. On m'en parlait depuis 2012-2013. Et puis j'ai toujours dit non parce que j'y croyais pas, je comprenais pas. Et puis j'avais trop de trucs en
tête. Beaucoup. Hein.
C'était e-sport et bar. Donc ça avait déjà beaucoup de choses dans la tête. Et à l'époque, pour acheter un bitcoin, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Tu n'allais pas faire un KYC sur Binance. Hein. Ouais.
C'était une galère.
Il fallait être un putain d'expert en informatique. Ouais. Et donc maintenant, maintenant c'est beaucoup plus facile. Je me suis énormément intéressé à ce milieu-là. Et donc la crypto, tout l'univers de la crypto, on appelle ça le Web3. Ouais. Et tout ce qui était avant, on appelait ça le Web 2. Donc le Web 1, c'est les années 90. Web 2, on va dire à partir de 2004 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2019-2021. Et depuis maintenant, le Web 3, c'est tout l'écosystème de la crypto, puisque les gens ont beaucoup tendance à penser que la crypto, c'est le Bitcoin, les NFT. Mais en fait, l'écosystème de la crypto, c'est toutes les sociétés qui évoluent dans les blockchains. Autour des blockchains. Et tu as des blockchains qui te permettent de faire à peu près tout et tu peux créer des sociétés dans à peu près tous les domaines. Tu peux créer aussi bien le Dropbox que l'Instagram, que n'importe quoi de la crypto. Et donc, je commence à vraiment bien creuser ce domaine-là. Et même si, comme je disais tout à l'heure, on est un peu dans le creux de la vague en ce moment, je me rends compte de plus en plus que les gens n'arrivent pas et ne comprennent pas ce que c'est la crypto. Et les gens de la crypto n'arrivent pas à parler aux gens du Web 2. Donc les gens du Web 3 ne savent pas parler aux gens du Web 2. Et les gens du Web 2 ne savent pas parler aux gens du Web 3. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et ça m'intéresse, je creuse un peu l'idée de faire un projet dans cette direction-là. Tout en continuant bien sûr l'e-sport, puisque ça reste ma passion numéro un. Et j'ai encore, je pense, des choses à apporter, ne serait-ce que par mon expérience.
Ouais.
Donc voilà, je continue ce qui existe déjà. Et je continue d'essayer d'itérer et de voir de nouvelles choses. Il y a encore toute une partie du monde que je n'ai jamais vue. J'ai jamais mis les pieds en Asie, par exemple. Alors que l'Asie est prédominante dans l'e-sport, je n'y ai jamais mis un pied. Le plus loin que j'ai été à l'Est, c'est la Roumanie, je crois. Donc voilà, il est temps que... Il y a plein de choses qui me restent à faire.
Ouais,
il est temps
pas, que mal je passe à... pas mal de projets, finalement.
Le next step. Voilà.
Une suite logique. Mmh. On passe à la partie rencontre mindset entrepreneuriat. Est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué une de tes aventures? Je sais que des rencontres...
Tu dois en choisir une seule?
Bien sûr, ouais.
Alors, je me suis souvent posé la question, et il y a deux, trois trucs. Alors, déjà, des conseils qu'on m'a donnés très jeune, mais si tu me demandes une rencontre... Il y a un conseil que je voudrais quand même donner, parce que si les gens écoutent, c'est important.
C'est la question d'après.
Ah, c'est la question d'après.
Tu peux y répondre direct.
Bon, j'y réponds maintenant. Le conseil principal qui fait que j'ai eu du succès, c'est de savoir bien s'entourer. Il faut arrêter de vouloir faire les choses soi-même. Si tu ne sais pas faire quelque chose, n'essaie pas de le faire toi-même. Il y a quelqu'un dont c'est le métier. N'hésite pas à dépenser 100, 200, 300 euros pour aller voir quelqu'un dont c'est le métier, au lieu de vouloir faire ton truc toi-même et te planter. Par exemple, les statuts de ta première société. Tu vas faire de la merde, c'est sûr. Tu vas faire de la merde et ta société va être nulle. Et tu vas pas pouvoir continuer d'évoluer parce qu'elle va être mal faite. Elle va être basée sur des pieds d'argile. Et il faut s'entourer. Donc voilà, moi c'est un truc que un de mes oncles qui avait réussi dans l'immobilier m'a dit très très jeune. Il m'a dit il faut savoir s'entourer. Moi j'ai des gens, j'ai des comptables, des avocats qui s'occupent de tout. Je me fais pas les choses moi-même parce que déjà t'as pas le temps. Tu vas perdre ton temps à apprendre à le faire. Même si c'est bien des fois de comprendre, mais tu vas apprendre petit à petit. Mais c'est bien d'apprendre, de savoir un peu, parce que sinon tu peux te faire arnaquer. Les gens, ils peuvent venir. Si tu sais pas combien ça coûte un comptable, le mec de 16 000 balles à l'année, tu dis, bah oui, pas très bien, j'ai combien de lignes comptables? 2 lignes, ça fait 3 000 balles la ligne, c'est parfait. Donc non, il faut savoir quand même un petit peu de quoi on parle, mais s'entourer, voilà. Ça, c'est pour savoir quel était le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et je dirais que la personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a lancé, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, c'est Cédric Page, le directeur de Millennium. Quand j'ai postulé chez Millennium, bah, j'avais vraiment pas de bagage. J'avais un tout petit bagage d'expérience de World of Warcraft, mais c'était la première fois que je me lançais et que j'avais créé une boîte. Mais c'était la première fois que je me lançais vraiment dans l'e-sport. Et j'avais pas de compétences. En plus, je veux dire que l'e-sport, j'y connaissais que dalle, hein, parce que je connaissais World of Warcraft, mais c'était pas de l'e-sport. Enfin, il y avait tout petit peu de compétences.
L'e-sport, c'était nouveau aussi. Hein.
Voilà. Counter-Strike, Warcraft, tout ça, je connaissais rien. Et lui, il m'a mis les pieds à l'étrier et il a passé des heures et des heures et des heures à me former sur une tonne de choses. Je savais pas comment gérer l'HTML, par exemple, pour être journaliste web. T'es obligé de savoir faire de l'HTML et tout. J'avais jamais fait de programmation ou quoi que ce soit. Je comprenais rien. Il m'a tout appris. Et il m'a fait confiance, surtout dès le début. Et il m'a lancé, il m'a poussé dans les moments où moi j'allais pas. En plus, à l'époque, j'étais en couple avec une nana qui m'a plaqué au tout début de mon expérience. Et je me souviens, on dormait dans le même lit. On venait de se rencontrer parce que c'est au début, on a collaboré online parce que j'habitais à Glasgow à l'époque. Et donc, quand je suis rentré en France, premier event, ma meuf me plaque. Et donc, ce soir-là, on dormait dans un lit, dans le même chambre. Et il se retrouve à devoir me soigner mon chagrin d'amour alors qu'on se connaissait même pas. Et c'était incroyable.
Ça forge des liens. Là.
Alors, il m'a balancé le classique une perdue, 10 retrouvées. Bon, qui n'est pas du tout vrai, mais qui me permet de faire percer la pilule. Et puis, lui, c'était vraiment genre, je peux pas avoir mon rédacteur en chef. On était au milieu du WWI 2008. Donc, c'était un event de Blizzard à Paris où il fallait vraiment, il y avait du boulot. Tu vois, il fallait énormément de trucs. C'était l'annonce de Diablo 3, c'était une compétition World of Warcraft, il y a trop de trucs. Et donc, il avait besoin que je sois full focus. Et il a réussi à me faire dormir et à me permettre de m'endormir et à être efficace le lendemain. Et voilà. Et donc, ce type-là, que ouais. Je remercie, merci Cédric, si tu nous regardes, il a toujours été là pendant toutes ces années-là. Alors, il m'a exploité, il n'y a pas de souci. J'ai été vraiment, il a bien fait d'investir sur moi parce que j'étais capable de travailler des heures et des heures et vraiment donner mon maximum. Mais sans lui, je pense que je ne serais pas là. C'est clair et net. S'il y a bien une personne, si sans lui, je ne serais pas là, c'est lui.
Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est au final les conseils, ton conseil et le fait de rencontrer des gens, c'est relié quoi.
Ouais,
de s'entourer,
voilà.
De rencontrer un maximum de personnes.
Mais là, j'avais même pas voulu m'entourer.
Oui, bien sûr. Mais généralement, ça ouais. Vient justement de manière naturelle. Sans ouais. Forcer les choses, tu ouais. Vois, on s'entoure des bonnes personnes.
Ouais, voilà. Il faut savoir faire confiance aux bonnes personnes au bon moment. Faut pas avoir trop peur des gens parce que. Il y a des gens qui sont très méfiants. Je rencontre plein des gens comme ça qui sont méfiants. Mais en fait, en étant trop méfiant, tu te bloques des choses. Il vaut mieux aller faire confiance à des gens en qui tu ne devrais pas avoir confiance et qui t'arnaquent, et qui t'apprennent des choses et que tu avances et que tu move on, plutôt que de rien faire parce que de peur qu'on t'arnaque.
C'est très français aussi, hein, d'avoir peur des
ouais.
Tu vois.
Les gens ont peur de tout.
En termes de business et tout, on est vite. Vite froid.
Mais j'évite de faire des généralités, c'est très français.
Non.
C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont très françaises.
On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes et la différence de culture ouais. Entre
non, mais ça, c'est
pays.
Vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait de ne pas parler d'argent, de ne pas parler de succès.
Voilà, exactement.
Tu vois. Le
ça
simple
parle,
fait que moi je vienne parler de mes succès ici, plein de gens ils le feraient pas parce qu'on ne parle pas de son succès. Quoi. Bon, moi j'ai pas été éduqué trop à la française. Mon père est breton, ma mère est arménienne. Donc j'ai toujours été un peu à la croisée des chemins internationaux européens. Et donc du coup, j'ai pas vraiment de mindset trop français, même si sur certaines choses je suis très franchouillard.
Le mindset breton, voilà. L'entrepreneuriat est très présent.
ouais, mais c'est très local. C'est très breton, ouais. Ah, c'est vrai que t'es breton aussi.
Exactement, on vient de Rennes.
Ouais.
Et est-ce que tu pourrais me donner une erreur à ne pas faire en tant qu'entrepreneur?
Ne pas se lancer. Voilà, hésiter. Non, pour moi, il faut foncer. T'as une idée, fonce. Même si quelqu'un d'autre a la même idée au même moment, bah, c'est juste à toi de la faire mieux, Chloé. Ça va pas se jouer à qui a l'idée en premier, ça va se jouer à comment tu la réalises. Donc voilà, faut se lancer, ne pas hésiter. Si t'hésites, justement, bah, entoure-toi, trouve des gens pour t'aider. Se lancer seul, c'est très difficile, par contre, ça c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit à tous les franchisés de Meltdown, j'ai dit, franchement, les projets où il y a un mec tout seul ou une meuf toute seule qui viennent, j'hésite. Ça veut dire que je vais avoir trop d'investissements à faire, moi, personnellement, pour aider la personne. Et il faut vraiment avoir des gens avec toi, parce que quand ça va pas, parce que ça peut pas aller bien 24/24, il faut que t'aies quelqu'un sur lequel tu peux te reposer et qui prenne le relais. Donc le minimum pour moi c'est 2, et encore 2 ça me semble peu, parce que s'il y a un bisbille, personne peut trancher, donc 3 c'est pas mal.
Ok, on est 2 avec notre boîte donc.
Ouais. J'ai à la chef. J'espère que vous avez des amis suffisamment proches pour arbitrer les soucis que vous pouvez avoir.
Ouais, ça devrait le faire. Et puis avant de passer à la dernière partie, qui sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui, tu vois?
Écoute, je suis pas quelqu'un qui s'inspire beaucoup des autres, mais petit à petit, j'ai réalisé quand même qu'il y avait des personnes assez formidables. Alors, il est très décrié, mais Elon Musk, pour moi, c'est vraiment un être humain qui est je vois difficilement comment on peut faire plus de choses dans sa vie pour faire avancer l'humanité. Parce que moi, par exemple, ce que j'ai fait n'a jamais fait avancer l'humanité. Tu vois, créer des bars e-sport, j'ai juste bourré la gueule au Now Geek. Donc, c'est pas ça qui fait que l'humanité s'est retrouvée sur la Lune, tu vois. Mais lui, il a vraiment créé des trucs. Et alors, c'est bien, c'est pas bien. Il exploite pas, tu vois. Mais moi, je suis passionné d'espace. Donc, forcément, tout ce qui a trait à la conquête de l'espace, pour moi, c'est extraordinaire. Et vraiment, ce type-là, bah voilà, il s'est donné les moyens de ses ambitions, quoi. Il est allé, bon, il a créé PayPal, il avait 22 ans. Enfin, il a cofondé PayPal, il avait 22 ans. Bon, c'est un petit génie, tu vois. Mais tu peux être un génie et faire les choses pour ton intérêt personnel. Lui, au-delà de tout le côté mégalo et complètement fou du gars, du personnage, il est très fantasque. Bah, pour moi, il fait vraiment avancer l'humanité. Je veux dire, même si peut-être que l'avenir de l'humanité n'est pas dans l'espace, au moins grâce à lui, on en aura le cœur net. Genre à un moment, si on va sur Mars, je pense que ce sera grandement grâce à lui. Et si c'est pas Mars qui va nous accueillir et qu'on se rend compte, bah finalement, on aurait peut-être dû écouter les gens qui disaient qu'il fallait renouveler les ressources sur la planète Terre parce qu'il n'y aura pas forcément Mars, bah au moins, on le saura. Et j'espère qu'on sera sur Mars suffisamment tôt pour que la Terre ne soit pas encore salvée et qu'on puisse encore la sauver.
Non, c'est clair. Et puis toujours des projets plus fous que les autres, ouais, les uns que les autres.
Ça n'arrête pas, quoi. Le mec, un jour, il fait des flamethrowers, le lendemain, il fait Hyperloop, le lendemain, il fait une bagnole sans électricité, enfin machin.
Là, comment fait-il ?
Non, il est vraiment.
Il doit être bien entouré, je pense.
Il est très bien entouré, mais j'ai l'impression, contrairement à certaines personnes, qu'il est quand même à la tête du truc, quoi.
Ouais, non, c'est clair.
Après, tu vois, Elon Musk, l'année dernière, il a fait n'importe quoi en crypto et je l'ai détesté pour ça, tu vois. Donc, et vraiment.
Avec le Dodge.
Ouais. Dodge, avec le fait que Tesla avait acheté des bitcoins et qu'il du jour au lendemain, ils ont dit qu'ils les avaient droits.
Mais il jouait avec le cours, quoi.
Ouais, il jouait avec les cours, il fait du délit d'initié, il n'y a pas de souci, c'est un connard. Mais ça reste quelqu'un qui. Si on me demande ce qui m'inspire, c'est vraiment le fait de pouvoir faire avancer l'humanité à toi tout seul. Enfin voilà, Jules César, et voilà, c'est tout, quoi.
Non, c'est clair.
Napoléon, c'est très nombreux, c'est... les humains qui ont vraiment influencé
le
monde entier.
Peu importe ce qu'on pense de lui, voilà, voilà, c'est le mec est présent.
Donc voilà, donc lui, et puis après, je suis très 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 fan de John Lennon, voilà, pour son génie musical.
Ouais. Et ben, on va pouvoir passer sur la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller ?
Alors, mon film préféré, c'est The Boat That Rocked. Qui en français c'est Good Morning England, c'est pas en français. Ils l'ont mis en anglais, en français, ouais. Alors que le titre original est en anglais, je comprends pas pourquoi, mais bon, bref. Et donc, parce que j'adore comme je viens de te dire, j'adore le rock des années 60 et 50, 70, on va dire. Et vraiment, c'est ce film-là qui, pour moi, représente le mieux la libération des esprits, le passage de la génération de nos grands-parents ou de nos parents post-guerre à notre génération, ce qui donne naissance à notre génération. Alors, bien sûr qu'il y a eu plein d'étapes, il y a eu le grunge, il y a eu le hip-hop, il y a eu plein de choses qui ont fait que aujourd'hui, la génération qu'on est nous, elle est ce qu'elle est. Mais pour moi, c'est vraiment la naissance, c'est ce moment-là où les jeunes de l'époque, pour la musique, se sont détachés du carcan, et donc ils ont créé des radios pirates sur des bateaux. Enfin, le délire,
ouais, ce film est incroyable. Ouais, vraiment.
Incroyable. Donc, bon, moi, au-delà, c'est pas une réalisation de malade et tout machin.
Non, mais il est incroyable, ce film.
Mais il est fou. Puis il y a une actrice que j'adore dedans, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais elle s'appelle Tallulah Riley.
Ok.
Et qui est magnifique dans ce film là. Et donc, voilà, c'était la petite amie de Elon Musk. Et qu'est-ce que je disais ? Donc, ça, c'est mon film préféré. Et ma série préférée, je dirais Peaky Blinders.
Ah, nice.
J'adore, je la trouve vraiment géniale.
Et du coup, c'est un peu relié avec l'autre question, mais c'est quoi ta musique du moment ?
Alors, musique du moment, j'écoute beaucoup d'électro en ce moment. J'ai pas une musique du moment. J'ai des chansons, mais en fait, je me souviens jamais comment elles s'appellent, parce que c'est dans les playlists, dans les machins. Et ma chanson préférée of all time, je dirais que c'est Bees and Butterflies de Girls in Hawaii.
Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle ?
Aïe, aïe, aïe.
Pour le kiff,
SpaceX,
ou pour un intérêt
peut-être.
Business.
Peut-être SpaceX, pour le principe d'aller dans l'espace, parce que j'ai vraiment très envie d'aller dans l'espace. Pour le kiff, je sais pas. Là, je pense que je suis rendu à un point dans ma vie où j'ai pas envie d'être à la tête d'une société, vraiment. Même si je vais sans doute l'être de nouveau dans ma vie, mais j'ai plus cette envie de mener des barques, tu vois, mener un bateau contre vents et marées, quoi. J'ai plus envie de kiffer avec mes potes et donc peut-être j'ai envie de racheter ma prochaine boîte, mais de la financer, qu'elle soit déjà financée, tu vois, post levée de fonds.
C'est une bonne réponse. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais potentiellement voulu aborder ?
Alors, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, j'aurais pas forcément eu envie qu'on en parle, mais on a pas aborder tout le côté vie privée par rapport à vie professionnelle, qui est très très important pour moi à apprendre à gérer. Tu te lances, t'es déjà en couple avec des enfants, c'est une galère. Tu te lances, t'es célibataire, bah tu vas rester célibataire très longtemps. il faut vraiment, quand tu te lances, quand t'as envie de te lancer, ou quand t'es déjà dans le truc, il faut vraiment apprendre à gérer sa vie personnelle, parce que c'est le plus important, c'est ça qui va faire que tu vas durer sur la, enfin, tu vas tenir sur la durée. Parce que moi j'ai eu des burn-out, j'ai perdu les amours de ma vie plusieurs reprises dans ma carrière, et c'était toujours parce que je savais pas gérer, parce que j'ai jamais réussi à gérer les deux en même temps. Je savais gérer l'un, je savais gérer l'autre, mais je savais pas gérer les deux en même temps. Et ce que maintenant j'ai appris à faire les 2-3 dernières années, je dirais. Depuis 2019, je réfléchis vraiment à ça. J'ai suivi une psychothérapie de 2018 à 2020. Et ça m'a vraiment appris à comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais là, pourquoi en fait j'avais fait tout ce que j'avais fait. Parce que je l'ai pas fait juste par magie et par accomplissement de moi. C'était vraiment que parce que ma tête pensait d'une certaine façon, que j'avais été drivé comme ça toute ma vie par moi-même. Mais des problèmes que j'avais personnels faisaient que je pouvais pas affronter certaines choses qui faisaient que je faisais ça. Par exemple, mon refus de l'autorité est clairement un truc qui fait que j'ai été obligé d'aller dans cette direction là et donc voilà, il y avait plein de choses que j'avais pas comprises sur moi-même, et c'est bien de faire une pause à un moment, de se rendre compte de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de ce à quoi t'aspires, et de le faire en adéquation avec tes sociétés, parce que si c'est pas le cas, ça peut mettre terme à ton entreprise de façon un peu prématurée, je pense.
Ouais,
pas forcément pour tout le monde, mais...
C'est un sujet qui est de plus en plus fréquent, en tout cas, dont on parle le plus, de plus en plus, et qui était très tabou, tu vois, ces dernières années.
C'est vrai.
Et c'est bien d'en parler, tu vois, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup... Je pense que la majorité des entrepreneurs sont passés par ces étapes.
Je pense aussi, ouais.
Et donc, c'est tout à fait normal de passer par là, quoi. Ouais. Mais...
Puis en plus, c'est une force. Hein. Enfin, je veux dire, avoir quelqu'un dans sa vie... alors c'est pas forcément la personne avec qui t'es en couple, mais avoir quelqu'un autour de toi, ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, avoir des gens qui te soutiennent, même tes neveux, tes nièces, enfin, en ce qui me concerne, mes neveux, mes nièces, c'est une force de tous les jours, parce que je vois, ils sont tout petits, mais dès que je vois leurs photos, ça me donne une énergie de fou. Je sais qu'il y a un avenir, tu vois, ça me donne vraiment cette vision de c'est les gosses de demain, et des fois j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, ce genre de choses. Mais ça, c'est hyper important. Si t'es tout seul dans ton coin à te fermer, et comme moi à l'époque Meltdown, c'était vraiment ça, seul dans mon coin avec mes employés qui étaient devenus mes amis, et tous mes autres amis, mes amis d'enfance et tout, perdu de vue, j'ai tout fermé, et c'était la pire façon de faire une société. Même si ça a cartonné, même si ça a marché, même si je suis très fier de ce qu'on a fait, c'était pas la bonne façon, quoi. J'aurais pas pu faire ça ad vitam aeternam et être heureux.
Ça rejoint l'entourage, du coup, l'entourage pro et l'entourage perso, qui sont vraiment un des piliers de l'entrepreneuriat et dans la vie, en fait, hein, très, très simplement.
Ouais, exactement.
avant-dernière question, c'est qui les entrepreneurs que tu me conseilles pour de prochains épisodes ?
Écoute, si je te propose des gens avec qui je travaille, c'est dommage parce que ça va être un peu redondant, mais Guillaume Merlini, à mon avis, il déteste les interviews, mais je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter, parce que c'est un gars alors lui, sa vie entière, c'est Gamers Origin. De A à Z, enfin toute sa vie professionnelle. Et c'est incroyable, j'ai énormément de mal, alors que c'est un très bon ami avec qui on travaille ensemble depuis 6-7 ans, et on est là ensemble tous les jours, et on a affronté, alors là je peux te dire, des cascades, on en a vécu. J'ai un mal fou à savoir, tu vois, je saurais même pas comment il répondra à ces questions-là, tu vois. Alors que je pense que je le connais très bien, mais enfin, que je suis une des personnes qui le connaît le mieux, mais je le connais très mal. Donc c'est vraiment, je pense que ce serait intéressant, mais bon, je sais pas s'il accepterait.
On va essayer.
Pas là tout de suite comme ça, il y a que lui qui me vient. Après, si j'avais plus de temps, je pourrais te conseiller plein de gens. Emmanuel Freund, qui avait créé Shadow et qui maintenant est à la tête de Powers. Si tu veux rentrer en contact avec lui, je te présenterai. Lui, très intéressant, parce que lui, il a une façon de considérer l'entrepreneuriat bien différente de la mienne, mais on est d'accord sur plein de choses aussi.
C'est déjà bien.
Ouais, mais il y en a beaucoup. Christian Montois, alias Poca, avec qui je fais tous les restaurants, les bars en ce moment. Un mec en or qui vit l'entrepreneuriat d'une façon un peu forcée, parce qu'il voulait pas être chef d'entreprise, mais finalement quand tu ouvres un restaurant, bah, tu deviens chef d'entreprise. Et c'est pas forcément son truc, mais il doit le vivre, et donc lui il traverse ça de façon très tumultueuse. Et je pense que ce serait marrant de l'avoir en interview aussi. Voilà. Je pense que c'est trois entrepreneurs avec des visions différentes de la mienne, que je connais très bien et qui, à mon avis, pourraient répondre de façon intéressante.
Et pour finir notre conversation, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
J'ai pas envie de blesser les gens qui me diraient « mais ça, c'est moi aussi », alors qu'ils sont pas entrepreneurs, mais j'ai envie de répondre quelque chose du style « c'est quelqu'un qui donne les moyens d'atteindre ses rêves ». Mais bon, Il y a plein de gens qui le font sans être entrepreneur. Donc,
bien sûr.
Voilà. Mais moi, c'était la façon dont j'avais d'atteindre mes rêves, c'était d'entreprendre. Voilà.
De toute façon, chacun a sa propre vision de l'entrepreneuriat. Ouais, et c'est pas vrai. Effectivement, faut... tout ce qui est dit dans ces épisodes n'est pas prendre au pied
de
la
lettre. Ah oui, non, je suis pas donneur de leçons. Exactement. Je donne mon avis.
C'est important de le rappeler, quoi. Eh bien, super. Pour conclure, on va remercier aussi Kulon Workers de nous accueillir aujourd'hui. Et puis, merci à toi pour cette discussion. C'était très cool.
Pas de soucis.
J'espère que ça t'a plu.
Ouais, c'était très intéressant.
Et puis, j'espère que ça t'a plu, toi aussi, qui regarde cet épisode. Et on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Salut.